ça s'est passé dans notre dos. On a eu l'impression qu'il avalait quelque chose. Nous, on est à ses côtés depuis le début et on voit bien que depuis le début, il est écrasé.
En 5 minutes, elle a été reconnue coupable de viol et de séquestration, condamnée à 30 ans de prison et il a tenté de se suicider. Willy Bardon est en réanimation.
Édouard Philippe reste ferme sur le principe de suppression des régimes spéciaux de retraite. La réforme au global sera enfin présentée dans le détail mercredi.
En attendant, la grande grève continue dans les transports et perturbe les grands événements comme la fête des Lumières à Lyon.
Et puis une tombe à Saint-Barth, une tombe entretenue comme le mausolée d'un grand homme. Il s'agit bien sûr de celle de Johnny Hallyday.
C'est très beau, c'est très beau.
Non, bah c'est sûr qu'elle est très très bien entretenue pour que ça dure.
Elle fait du beau boulot, la Laetitia, c'est bien.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un verdict qui tombe et un condamné à 30 ans qui tente d'en finir immédiatement. Le geste désespéré de Willy Bardon, c'était vers 20h hier soir à Amiens. La cour d'assises de la Somme venait de le reconnaître coupable d'enlèvement, de viol, de séquestration suivi de mort sur la personne d'Élodie Kulik. Le récit de notre envoyé spécial à Amiens, Maximilien Carlier.
Dans son box, Willy Bardon a la tête baissée. Aucune réaction pendant plusieurs minutes et tout à coup, il prend un cachet où ce qui semble être un médicament blanc le met difficilement dans sa bouche car il tremble. Willy Bardon attrape ensuite sa bouteille d'eau et se met à boire. Des policiers qui l'ont vu lui sautent dessus, l'arrêtent. Ses avocats juste devant lui se lèvent, incrédules.
Ça s'est passé dans notre dos. On a eu l'impression qu'il avalait quelque chose. Nous, on est à ses côtés depuis le début et on voit bien que depuis le début, il est écrasé parce que c'est une tension tellement énorme que... Voilà.
Pris en charge par les pompiers, Willy Bardon est conscient. Il est transporté à l'hôpital d'Amiens. Le père d'Élodie Kulik, Jackie, voulait, selon ses mots, le voir croupir en prison. Il est très amer et a une pointe de mépris.
Il a volé des cachets, bah c'est le geste d'un innocent. Hein. Ça prouve bien qu'il est vraiment innocent, ce gars-là. Donc.
Et d'après le procureur, un proche de Willy Bardon a confié qu'il voulait se suicider en cas de condamnation. Amiens, Maximilien Carlier, Europe 1.
Willy Bardon qui se trouvait hier soir en réanimation à l'hôpital dans un état grave. On ne sait pas quel est le produit qu'il a ingéré, a déclaré le procureur de la République d'Amiens.
Nous en sommes au troisième jour de grève dans les transports publics, notamment partout dans le pays. Faisons d'abord un point sur ce qui roule.
Un TGV sur 6, un TER sur 10, souvent remplacé par un bus d'ailleurs. 15% seulement des trains de banlieue. En Ile-de-France, les RER A et B, il y en a peu et c'est uniquement entre 13h et 18h. 40% des bus roulent, un tramway sur deux. Enfin, pour le métro parisienne, il y a toujours 9 lignes à l'arrêt.
Jusqu'à quand va durer cette grève contre la réforme des retraites ? Eh bien, les syndicats de la SNCF se réunissent à nouveau en intersyndicale ce matin à 10h à Montreuil au siège de la CGT. Une nouvelle journée de manif est prévue mardi et le gouvernement va présenter mercredi le détail de la réforme.
D'ici là, le Premier ministre tente l'équilibre entre l'apaisement sur la forme et la fermeté sur la réforme. Jean-Rémy Baudeau.
Hier, sur le perron de l'hôtel de Matignon, Édouard Philippe a une nouvelle fois tendu la main au syndicat.
Ma logique ne sera jamais celle de la confrontation.
Certes, il ne reviendra pas sur le principe d'une retraite universelle à points ou sur la fin des régimes spéciaux, mais il resterait des points à négocier.
Je répète aujourd'hui ma disposition totale pour faire en sorte que les transitions soient progressives, afin de ne pas être brutal.
Malgré les blocages, Matignon veut croire que le dialogue est possible. On a encore des choses à proposer, explique un conseiller. Édouard Philippe prend l'opinion à témoin.
Car nos concitoyens savent qu'il faudra renoncer à des régimes spéciaux qui ne sont plus compris. Ils savent même qu'au fur et à mesure, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps.
Reste à convaincre les syndicats, mais là encore, l'entourage du Premier ministre se montre optimiste et promet qu'en coulisses, les négociations avancent. Sinon, les syndicats ne viendraient tout simplement plus aux concertations, veut croire un proche d'Édouard Philippe.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Notez aussi que 15 points de blocage sont prévus de la part des transporteurs routiers qui protestent, eux, contre la future hausse des taxes sur le diesel, 2 centimes par litre à partir du 1er janvier.
Ces perturbations en série ne sont pas sans conséquences, bien entendu, pour les grands événements du mois de décembre.
À commencer par la fête des Lumières à Lyon, qui a commencé pile jeudi, premier jour de la grève. Nombre de touristes ont annulé leurs réservations. Jean-Luc Bougeon.
Ce que les hôteliers craignaient en début de semaine a donc fini par arriver, avec désormais la certitude que la grève dans les transports allait durer. Les annulations se multiplient dans les établissements lyonnais, comme au Roosevelt, l'hôtel de Laurent Jaume, dans le 6e arrondissement.
C'est une dizaine d'annulations par jour. Encore une ce matin, pour deux nuits, samedi et dimanche. La personne n'a pas de train, pense ne pas en avoir, donc elle préfère annuler. Celui-là, il venait de la région parisienne. C'est plutôt les Français qui annulent majoritairement. Ceux qui sont à 2 heures de train à peu près, c'est un vrai problème économique. Forcément, on comptait beaucoup là-dessus, on s'était préparé là-dessus. On espérait tous faire complet sur 3 jours ou 4 jours. Ça ne sera pas le cas, parce qu'il y a la disponibilité vraiment partout.
Entre 20 20 et 30% d'annulations donc dans beaucoup d'hôtels lyonnais. Les restaurateurs aussi craignent un contre-coup important, d'autant que comme l'an dernier, une manifestation des Gilets jaunes aura lieu aujourd'hui. Même le maire Gérard Collomb, jamais le dernier pour vanter les mérites de sa fête des Lumières, admet que c'est difficile aujourd'hui d'organiser des festivités.
Ça fait la quatrième année que nous sommes impactés. Première année, nous avions dû annuler juste après les attentats terroristes. Ensuite, l'année dernière, avec une opération des Gilets jaunes, donc c'est quand même un peu complexe.
C'est pour cela, pour rassurer les visiteurs, que 1200 policiers, gendarmes et militaires seront déployés sur les trois périmètres installés en ville. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Président du MoDem et très proche d'Emmanuel Macron, voilà François Bayrou mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics. 10 heures d'audition dans le bureau des juges hier qui enquête sur des soupçons d'emploi fictif, des assistants parlementaires européens qui auraient en fait travaillé pour le parti centriste.
La suite de ce journal, dans un court instant, la jeune Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, est arrivée à Madrid via Lisbonne pour la réunion climat COP25. Elle a été accueillie comme une rockstar et je précise qu'elle est venue non pas en avion, mais à la voile.
8h07 sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1, le 6-9. Europe 1.
Vos informations reprennent avec François Geffrier et Bernard Porrette.
François, elle n'a que 16 ans, mais chacun de ses déplacements est désormais observé avec beaucoup d'attention dans le monde. Et c'est à Madrid que l'on retrouve aujourd'hui Greta Thunberg.
La jeune Suédoise a retraversé l'Atlantique vers l'Europe pour se rendre à la conférence climat, la COP25, et participer à une énorme manifestation pour le climat. À Madrid, pour Europe 1, Henri de Laguérie.
Un accueil digne d'une rockstar. Lorsqu'elle se présente hier après-midi en conférence de presse, Greta Thunberg est accueillie par les crépitements des flashs. Près de 500 journalistes sont venus voir celle qui est devenue le symbole de la lutte contre le réchauffement climatique. À l'origine du mouvement de grève des lycéens et des marches chaque vendredi, la jeune Suédoise se dit déterminée à poursuivre son combat.
Ça fait un an qu'on fait grève et presque rien n'a changé. Pour les enfants, ce n'est pas une solution durable de rater l'école. Donc on aimerait bien que les gens au pouvoir agissent. On ne peut pas attendre plus longtemps.
Autour d'elle, pendant la manifestation dans les rues de Madrid, c'est une véritable cohue, mais l'adolescente garde son calme. Greta est devenue une icône. Anne a pu s'approcher d'elle, elle est sous le charme.
C'est une personne qui a beaucoup de karma, qui a beaucoup de courage aussi, j'imagine. Elle a réussi en fait à changer un petit peu le côté « oui, c'est des hippies, ils sont verts, ils veulent protéger les oiseaux ». Ah non, en fait, ça se passe maintenant, le changement climatique c'est maintenant, il y a des conséquences qu'on peut voir et donc il faut vraiment qu'on agisse.
Lundi, la jeune activiste parlera de nouveau dans le cadre de la COP25 avant de rentrer enfin chez elle en Suède pour passer Noël. Madrid, Henri de Laguérie, Europe 1.
5 millions de dollars, c'est la récompense promise par les États-Unis pour la capture de Fausto Isidro Meza Flores, que vous connaissez bien, Bernard.
Mais je sais où il est d'ailleurs.
Chapeau Isidro, 37 ans, accusé de piloter un trafic de drogue au Mexique. Et puis, un peu plus de 5 millions, 6 500 000 euros, c'est le montant des promesses de dons actuellement pour le Téléthon. C'est tout le week-end. Vous faites une promesse de don en appelant le 3637 ou bien en vous rendant sur le site don.téléthon.fr.
C'est à 7 000 km de la métropole. Saint-Barth, une toute petite île des Antilles, c'est là que repose Johnny Hallyday depuis 2 ans. Une tombe entretenue comme aucune autre.
Il faut dire que même au bout du monde, les fans ont envie de rendre hommage à leur idole. Pierre Arbulot pour Europe 1 est allé à Saint-Barth dans ce cimetière face à la mer.
Malgré le soleil torride, les embruns et parfois les pluies torrentielles ou les vents violents, la tombe en marbre blanc paraît presque neuve dans le cimetière qui borde la mer.
C'est magique, c'est la tombe de Johnny. Voilà.
Grâce à celui qui met la musique sur son téléphone, Jean-Pierre, employé par Laetitia qui préfère garder le silence, tous les jours, il bichonne la tombe pendant 1 heure. Matin et soir, il frotte le marbre, change les fleurs, aplanit le sable et gère les cadeaux des fans comme celui de Jackie.
Oui, on a apporté un galet également avec nos deux prénoms et la date d'aujourd'hui.
Son galet, Jean-Pierre le met à la place d'un autre déposé quelques mois plus tôt et qui commence à s'effacer. Ce souci du détail ravit les fans de Johnny, eux qui ont traversé l'océan pour lui rendre hommage.
C'est pas jeté n'importe comment, c'est très beau, c'est très beau.
Non, bah c'est sûr qu'elle est très très bien entretenue pour que ça dure.
Pour des gens qui ont duré, ils ont duré de leur vivant, ils ont duré durant leur mort, et voilà, et donc ça a duré.
Elle fait du beau boulot, la Laetitia, c'est bien.
À la nuit tombée, des guirlandes éclairent la tombe, mais pas seulement. Jean-Pierre tient les comptes, ce soir-là, il a allumé sa 50 000e bougie. Sur l'île de Saint-Barthélemy, Pierre Arbulot, Europe 1.
Et à 8h12, on s'intéresse au sport avec vous, François Geffrier.
François, avec 5 points d'avance sur Marseille au classement de Ligue 1 de foot, Paris espère être champion d'automne dès ce week-end.
Pour ça, il faudrait une défaite ou un match nul des Marseillais demain soir contre Bordeaux et une victoire parisienne à Montpellier cet après-midi, c'est à 17h30. Paris n'est pas non plus au top de sa forme en ce moment, comme le reconnaît le coach Thomas Tuchel.
Je cherche des solutions faciles. C'est la meilleure chose. Si les choses sont compliquées, c'est la meilleure chose de trouver une solution facile. Je ne sais pas s'il y a des choses, des solutions faciles, mais je suis convaincu qu'on peut trouver et qu'on peut retrouver notre spirit. Et peut-être c'est la meilleure chose de jouer un match super difficile que contre Montpellier.
Le spirit de Thomas Tuchel avec Julien Froment pour Europe 1. Au programme également Strasbourg-Toulouse, Monaco-Amiens, Rennes-Angers et Nice-Metz. Tout ça c'est à 20h dans le multiplex foot d'Europe 1. Hier, Lille a battu Brest 1-0. Nîmes s'est fait laminer à domicile 4-0 par Lyon.
La Coupe d'Europe de rugby, elle continue avec Clermont qui est toujours en forme. Le club est allé battre Bath 34-17 hier.
Comme vous faites bien cet accent anglais, Bath. Aujourd'hui, Lyon accueille les Italiens de Trévise à 14h. La Rochelle reçoit les Écossais de Glasgow à 16h15. Et le Racing 92 se déplace au Pays de Galles sur la pelouse des Ospreys à 18h30.
Trois infos au sport, en bref. Du handball, du basket, du biathlon.
Les Françaises éliminées de la Coupe du Monde de handball après leur défaite 20-18 contre le Danemark doivent encore jouer pour se classer et finir au mieux 13e de la compétition. En basket, l'ASVEL perd pour la 4e fois de suite en Euroleague. C'était hier soir face au Zénith Saint-Pétersbourg 75-70. Le biathlon, c'est le relais masculin emmené par Martin Fourcade aujourd'hui en Suède à 17h30.
Et puis les championnats d'Europe de natation avec le retour d'un ex-nageur, ex-handballeur redevenu nageur. Florent Manaudou.
Retour réussi, la preuve, médaille d'argent sur le 50 mètres nage libre hier.
Je suis content de remonter sur un podium, après c'est sûr que je préfère gagner, mais c'est vrai que ce 50 il est compliqué parce que je sais que tout le monde m'attend, moi aussi. Hein. Je vais nager vite, après c'est sûr que quand je repensais à 6 mois, j'étais encore un handballeur, mais je sais pas, je suis compétiteur, j'ai limite oublié que j'ai arrêté pendant 3 ans et ça m'énerve d'être à 4e de mon meilleur temps.
Florent Manaudou avec les équipes de la Fédération Française de Natation.
Ceci conclut le journal de 8h de François Geffrier qui reviendra à 9h.